Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. C'est presque une énigme. Voilà, 9e trimestre consécutif de création nette d'emplois avec pratiquement pas de croissance. Par le passé, il fallait 1,5 de croissance en France pour commencer à créer des emplois. 92 400 créations nettes, nous a dit l'INSEE au premier trimestre. On a pratiquement créé 2 millions d'emplois depuis début 2017. Le taux de chômage est au plus bas depuis 1982. On a désormais 27 millions de salariés. Plus de 27 millions de salariés, ça ne s'était jamais vu en France. Comment se fait-il que l'emploi résiste à la panne de croissance? Car justement, la panne de croissance semble se confirmer. Eurostat a validé hier la récession technique, on va dire pour l'instant, de la zone euro, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs dans le rouge. Une récession très largement provoquée par le ralentissement de l'Allemagne. Nouveau message rassurant de la part de la Banque de France. Le pic d'inflation est atteint, nous dit la Banque de France. C'est pas la première fois qu'on est dans cet état d'esprit qu'en France, on aurait atteint le sommet de l'inflation. Et puis alors, une étonnante initiative citoyenne européenne. C'est une procédure qui s'appelle ICE, engagée par des économistes, des militants et des millionnaires de 7 pays d'Europe qui disent « Il faut un impôt européen permanent sur la fortune des 1% les plus riches ». Bonjour Christian Poyot.
Bonjour Nicolas Dose.
Vous êtes PDG de Micropole et président de la commission Mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. On dira un petit mot, j'espère qu'on aura le temps à la fin, sur la campagne justement pour la succession de Geoffroy Roux de Bézieux à la tête du MEDEF. Ludovic Subran, bonjour.
Bonjour.
Chef économiste d'Alliance, vous m'avez manqué. Vous travaillez
aussi.
Trop.
Vous aussi.
Vous venez plus souvent.
Mais ici, c'est travailler.
Si vous saviez le nombre de SMS que je lui ai envoyé pour qu'on trouve une date. Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Comment on est, d'après vous, je me tourne vers le chef d'entreprise, comment on peut expliquer que l'emploi résiste en France alors qu'il y a toutes les raisons de penser que ça ne devrait pas être le cas?
Alors déjà, quand on étudie les chiffres, la situation est différente selon les secteurs.
On est d'accord.
Si on fait le grand partage entre services et industries, c'est vraiment une notion de modèle économique, si j'ose dire. L'industrie a des carnets de commandes et donc a une vision de production qui est beaucoup plus longue. Et l'année dernière, les industries, de manière générale, ont eu vraiment des progressions de carnets de commandes tout à fait significatives qui leur donnent une vision de production sur 18, 24, voire plus dans certains cas. Le service, il est beaucoup plus soumis à la conjoncture immédiate, et les carnets de commandes, c'est plutôt du 3-6 mois, quand c'est même pas encore plus court sur des sujets comme la restauration, etc. Voilà. Donc c'est ça déjà qu'il faut prendre en compte. Donc on voit que l'emploi résiste beaucoup mieux sur la partie industrie. C'est très bien expliqué par Alexandre Sobo d'ailleurs dans un excellent journal
qui s'appelle Les Échos.
Qui s'appelle
en page 2.
Un super article,
n'est-ce pas?
Alexandre Sobo, il nous dit, écoutez, on fait 10 ans de politique de l'offre.
Mais
on en a les fruits.
Mais exactement. Après, pour revenir à des choses très basiques, un chef d'entreprise, il embauche pourquoi? Parce qu'effectivement, il a une vision positive de son activité, d'accord? Et puis parce que ses marges vont s'améliorer. Et puis parce que, dans tout l'ensemble de sujets, il se dit, bon, ok, j'ai une vision à 18-24 mois. Si à 18-24 mois, malheureusement, ça peut être un peu moins positif et que j'ai besoin, comme on dit, de réduire la voilure de manière un petit peu polie, si j'ose dire, eh bien, les réformes qui ont été faites aussi sur le marché du travail sont là. Donc, vous avez un ensemble d'éléments. C'est pas un bouton sur lequel on appuie pour dire, pof, ça y est, l'emploi améliore. Le chef d'entreprise de terrain, que je suis aussi, c'est tous ces éléments-là qui pèsent. Et cette politique de l'offre qu'on mène maintenant depuis 7-8 ans, grosso modo, eh bien, on en voit les effets. Et c'est quand même extrêmement positif. On en parle à cette antenne, c'est très bien. Et là aussi, dans certains supports, comme les Échos, évidemment, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est quand même c'est la base, parce que plus de gens travaillent, plus on produit, plus on crée de richesses et tout ce qui va avec.
Nous, on fait de l'économie et que de l'économie ici. Dieu sait si les habitués de cette émission le savent. Mais pourquoi est-ce que la plupart des médias n'en parlent plus? C'est parce que c'est sorti des baromètres d'opinion. Pendant des années, ça a trusté la première place, l'emploi, le chômage, et désormais, c'est fini. On n'en parle plus, et donc ils n'en parlent plus. J'en ai parlé sur BFM TV ce matin, sur cette question. Comment l'emploi résiste avec une panne de croissance?
Il y a encore des marges de manœuvre.
Louis m'écrit, c'est du fait de la perte de compétitivité. Je pense qu'il veut dire productivité, à mon avis, Louis, qu'il y a des créations d'emplois sans croissance. Vous comprenez? Ou alors les économistes sont obligés à un moment de dire, écoutez, là, on sèche un peu.
Non, il y a des... C'est sûr que, quand on dit l'emploi résiste, il faut toujours dire jusque-là, Parce que quand justement il y a une décélération de croissance, ce qui est un peu ce qu'on attend sur la deuxième partie de l'année, ce qu'on voit déjà en partie dans certains secteurs, quand il y a autant de durcissement des conditions monétaires, c'est vrai, et qu'il y aura certainement moins de 1,5% de croissance sur l'année, au trimestre, ça veut dire qu'on devrait avoir quand même des sujets sur les taux de chômage. Donc moi, je dis jusque-là, l'emploi résiste, mais attention, c'est un indicateur retardé, et que sur la deuxième partie de l'année, va se jouer le grand mouvement de balancier pour les chefs d'entreprise entre les marges, les profits et les salaires. Parce que les chiffres d'affaires en valeur sont en train de décélérer et les coûts sont collants. Et donc, il y a un effet étau, un effet tenaille qui se joue sur les marges. On dit toujours les marges sont au plus haut. C'est vrai, tout secteur confondu, quand on enlève l'énergie et les transports et les services un peu très conjoncturels, on est en dessous de 2019. Donc moi, je dis juste prudence. En fait, il faut faire un pont.
Jusqu'ici, tout va bien.
Ouais, il faut faire un pont. Le deuxième sujet, pour la raison pour laquelle il faut penser à faire le pont, c'est qu'une des raisons pour laquelle ça résiste, je ne sais pas si c'est le cas de Christian, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise nous disent on fait de la rétention d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser partir des gens qui savent pour aller les rechercher sur le marché de l'emploi avec des salaires plus élevés, parce que quand vous revenez, c'est le cas des États-Unis, vous négociez beaucoup plus, mais surtout, on n'est pas sûr de vous retrouver parce que vous vous réorientez ou parce que vous bougez. Donc il y a une rétention de l'emploi. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un porte ce coût. Et de nouveau, c'est les entreprises, c'est un choix stratégique de dépenses d'entreprise. Et troisième sujet, il faut quand même le dire, le coût d'un emploi créé en France aujourd'hui est deux fois plus élevé que le coût d'un emploi créé en 2019. Pourquoi ? Parce qu'on crée beaucoup plus de dettes par point de PIB en France aujourd'hui. Le fait qu'on a autant de dettes et de déficits, un point de PIB, ça nécessite 2,5 points de dette en France aujourd'hui. Et donc, un emploi, ça nécessite généralement deux points de plus d'endettement, ou de coût total plutôt, qu'en 2019.
J'ai un peu du mal à faire la corrélation sur ce que vous me décrivez
clair.
Là.
Vous me dites...
Un emploi, c'est l'entreprise, c'est l'employeur qui emploie.
Oui, enfin, il y a des baisses de cotisations sociales, des prix Macron, des aides aux entreprises. Non. Enfin, attention. Il y a tellement eu de transferts de richesses du public au privé en 2020. Il y a tellement eu de transferts de richesses du public au privé en 2022. Les emplois créés aujourd'hui, ils sont largement subventionnés par rapport à 2019. Je ne dis pas que la dynamique n'est pas dans le secteur marchand, elle l'est. Mais attention, les coûts des emplois aujourd'hui sont en partie, des nouveaux emplois créés, sont en partie portés par la collectivité. Et, je le rappelle, France Travail, ça empire ça.
On va en dire un mot. Mais
je pourrais juste
très vite, parce que je veux quand même que Jean-Marc. Oui, c'est une des échos.
Je vais faire attention face à Ludovic, je vais pas me lancer dans un cours d'économie, bien évidemment. Mais, ok, effectivement, je comprends le point. Mais j'ai du mal à entendre que c'est en fait le public qui subventionne le privé. En fait, on s'est réaligné. On commence à se réaligner sur les charges qui pèsent sur le privé par rapport à nos confrères européens. Simplement, de l'autre côté, on n'a pas fait l'effort de réduire la charge de l'État sur le PIB d'une manière générale.
Et là, ça a baissé les recettes, tu vois.
Oui, ça a baissé les recettes.
Donc, le coût total de l'emploi par rapport à... C'est juste le coût total de l'emploi.
Oui, mais mécaniquement, je comprends bien. Mais c'est l'idée de dire qu'en fait, c'est le privé qui se fait subventionner par le public.
Voilà. Ce qui est vrai, notamment dans les éléments explicatifs, il y a l'extraordinaire hausse de l'apprentissage. Il y a un effet un peu trompeur. L'apprentissage, c'est pas de l'emploi salarié, c'est largement subventionné.
Quand vous parlez au ministre de l'Emploi, il vous dit que les CFA, ça a coûté très très cher.
C'est le CFA, oui. Jean-Marc, votre vision des choses par rapport à ce qu'on a dit, on a un peu essoré l'éponge, c'est vrai, mais...
Non, il y a encore plein de choses à dire, rassurez-vous. D'abord, sur l'amélioration, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour effectivement alléger certaines cotisations sociales qui, quand on faisait des comparaisons par rapport à d'autres pays, étaient beaucoup plus lourdes et restent encore plus lourdes en France que dans la plupart des autres pays. Mais enfin, on a même baissé les cotisations et certains impôts. Il y a aussi eu des mesures sur le travail qui ont permis aux chefs d'entreprise d'embaucher en s'inquiétant moins le jour où ça se retournerait. Et je crois que c'est très important. Et en particulier dans les moments comme les moments actuels. Donc il y a eu toute une série de mesures qui contribuent à ce qu'on ait un emploi qui se comporte mieux qu'il y a quelques années. Le deuxième point, Ludovic a commencé à le dire, mais c'est un point très important. L'emploi, c'est toujours le dernier indicateur qui se retourne dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et je, donc là, ça ne va pas se retourner à la baisse tout de suite, mais il y a un certain nombre de signes qui commencent à se profiler. Hein. Quand vous voyez les intentions d'embauche dans les enquêtes INSEE auprès de toute une série de métiers, ben, les intentions d'embauche, elles sont en train de fléchir, voire de se retourner. Le nombre d'emplois vacants enregistrés est en train de diminuer. Le nombre de sorties de Pôle emploi pour reprise d'emploi est en train de diminuer. Donc on a toute une série d'indicateurs qui disent attention, ça ne va pas forcément continuer comme ça. Et l'indicateur retardé, je voudrais citer juste deux exemples qui ont été fameux. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, François Hollande nous a dit il va y avoir l'inversion de la courbe du chômage. Eh ben, il a attendu pendant 3 ans l'inversion. Et l'inversion, elle s'est produite 3 ans plus tard, au moment où il avait finalement renoncé à se représenter à l'Élysée, parce qu'il n'y avait pas eu l'inversion de la courbe. En partie, pas que pour ça, mais ça a joué. 10 ans plus tôt, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, a fait exactement la même chose. Il est arrivé à Matignon après un trou conjoncturel. Hein, il guettait chaque mois la baisse du chômage. Elle s'est produite 3 ans plus tard, le mois qui a suivi son départ de Matignon. Donc voilà, l'emploi c'est toujours un indicateur retardé. Donc voilà.
J'aimerais vous faire réagir effectivement à cette conséquence de la loi Plein Emploi ou loi France Travail, bon, on l'appelle comme on veut, c'est que comme elle vise finalement à faire rentrer dans les radars des dispositifs de retour à l'emploi au-dessus de France Travail, l'ensemble de ceux qui n'y sont pas aujourd'hui, et notamment énormément de bénéficiaires du RSA, on est d'accord que mécaniquement, on va avoir un effet statistique sur le chômage, dans la mesure où des gens qui n'apparaissaient pas, qui étaient dans le halo, vont se retrouver en pleine lumière inscrits, et donc on va avoir une dégradation mécanique du taux de chômage.
Non, pas du taux de chômage.
Pas du taux,
ouais, pas du taux de chômage.
Pas de, oui, mais oui, pas du taux de chômage s'il ne rentre pas. C'est vrai dans la définition, les définitions du Bureau international du travail. En tout cas, un effet négatif statistique mécanique.
Mais disons que, c'est surtout l'effet négatif. Il est plutôt pour moi sur la population d'attention de France Travail, parce qu'en fait, avant qu'on mette en place les 2 milliards et demi qui ont été promis pour recruter des gens qui savent s'occuper de bénéficiaires de RSA, qui vont avoir une activité d'apprentissage.
Vous avez raison de dire que c'est ça l'histoire. Hein. Des gens qui savent le faire et qui sont en capacité.
Parce qu'on a déjà vu quand la NPE et l'UNEDIC, ça s'appelait, oui. Sous Sarkozy, quand ils ont fait Pôle emploi, c'était quand même, on demandait à des gens qui payaient des allocations de vous faire du conseil en carrière. N'importe qui a eu des gens ou qui a connu la tragédie du chômage peut vous dire que vous avez en face des gens qui ont des populations d'attention qui sont trop nombreuses, des milliers de personnes qui ne sont pas qualifiées pour vous accompagner dans l'emploi. Et là, on va sur une population très spécialisée. Moi, je suis très partagé. Dans ma carrière d'économiste, j'ai beaucoup travaillé sur ces transferts conditionnels monétaires dans les pays émergents, notamment pour favoriser l'éducation, la santé, mais aussi la reprise d'emploi. Donc, quelque part, je trouve que théoriquement, d'activer les revenus du RSA avec un accompagnement dans l'emploi, c'est une bonne idée, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment trop loin de l'emploi, mais empiriquement, et donc je trouve que c'est bien qu'on fasse quelque chose, parce que ça fait des années qu'on parle de ça sans le faire, empiriquement, je suis très inquiet de l'offre. Parce que, encore une fois, le coût total de quelqu'un qu'on active au RSA, c'est très élevé. Donc, ça, encore une fois, le coût du nouvel employé sera très élevé. Et surtout, il faut des très bonnes personnes, ça dure longtemps, il y a des risques de rechute. Et la transformation institutionnelle ne me convainc pas à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut juste se dire, OK, on essaie, on voit ce que ça donne. Ils ont voulu faire un rebranding et tout. Bon, je pense que le vrai sujet, pour moi, c'est combien, et on parlait des coûts, combien les chefs d'entreprise sont-ils prêts eux aussi à investir dans leur politique d'insertion ? Parce qu'en fait, le vrai sujet pour un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est d'aller chercher des populations qui sont de plus en plus loin de l'emploi. Que ce soit avec des barrières difficiles à travailler, comme le logement, comme le transport, comme la garde des enfants. Et donc la question, c'est comment l'État et les entreprises travaillent ensemble à ces politiques d'insertion. Là, l'État fait son annonce, mais encore une fois, l'apprentissage, pourquoi ça a marché ? Parce que c'était entreprise-État ensemble. Là, France Travail, ça a l'air d'être un truc un petit peu, à mon avis, encore en vase clos. Et est-ce que les entreprises sont prêtes aujourd'hui à accueillir des demandeurs du RSA en temps partiel, avec des aménagements ?
On n'a jamais parlé d'emploi, quand on disait les cases à 20 heures d'activité, on n'a jamais mis le mot emploi non, derrière. Non. On a toujours mis activité sans savoir exactement ce que ça veut dire.
C'était censé être un filet social, c'était censé être pour les plus pauvres. Ça cassait la transmission de la pauvreté intergénérationnelle. C'était pas censé être un truc de tu travailles pour avoir ton allocation. Donc ça, c'était ça. Puis on a changé le nom, on a changé la philosophie. Il y avait, rappelez-vous, les contrats aidés, les CAE, etc. Et donc maintenant, on essaie de fusionner tout ça. Dont acte. Et on donne des dérogations à tous ceux qui ne peuvent pas travailler, physiquement qui ne peuvent pas travailler.
Oui, dans les bénéficiaires du RSA, il y en a certains qui ne peuvent pas.
Qui ne peuvent pas. Et donc, je dis, ok, on essaie, mais attention, parce que ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, c'est l'offre. L'offre d'accompagnement, l'offre d'orientation dans les entreprises et l'offre de services pour permettre un amorçage vers l'emploi. Et ça, pour
l'instant. Christian Poyot, c'est quelque chose, effectivement, que j'avais pas vraiment formalisé, comme le dit là à l'instant Ludovic. Mais dans ce projet France Travail, les entreprises ne sont pas partie prenante du tout.
Alors, plusieurs remarques. Déjà, juste pour faire un très rapide retour en arrière, on s'aperçoit que sur le travail, c'est en fait quand on prend des petites mesures, enfin petites qui ne sont pas jugées extraordinaires, ben elles ont un effet effectivement retard. Mais elles ont un effet quand même. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur France Travail, il y a un sujet dont on ne parle pas assez, qui est le fait de refondre toutes les offres. Ainsi, Ludovic vient de le faire à l'instant. Et d'ailleurs, là, je parle en système d'information, c'est un foutoir, pour rester dans des termes essentiellement polis, où il y a 15 000 aides dans tous les sens qui se croisent, on ne sait même pas qui sont les gens, etc. Et donc là, il y a un objectif, mais malheureusement, il sera à plusieurs années, parce que ce genre de choses, ça ne se fait pas en quelques mois. Hein. C'est vraiment plusieurs années pour arriver à unifier tous ces systèmes d'information, avoir une vision plus claire et plus aussi juste, je pense, de qui est vraiment dans la peine, entre guillemets, et qui profite du système. Parce que sur cet ensemble de RSA, il y a évidemment toute une population, soit qui ne peut pas travailler pour des raisons physiques ou autres, et il n'y a pas de débat, soit on cite souvent le cas, effectivement, des femmes isolées avec des enfants, qui sont aussi des cas très compliqués. Bon. Mais il y a aussi une partie des gens qui fatalement se complaisent dans ce système. Enfin, quelles sont les entreprises qui vont pouvoir embaucher ces personnes-là? Je sais pas, la restauration, l'hôtellerie, et dans ces sujets-là. Au jour d'aujourd'hui, moi, ce que j'entends encore avec ma casquette MEDEF, c'est qu'il y a encore beaucoup de demandes. Il y a des reportages, d'ailleurs, qui montrent des restaurants qui ne fonctionnent pas ou couvrent pas tel autre parce qu'ils n'ont pas de gens. Et sur ces métiers-là, la qualification, il y en a une, bien évidemment, mais elle n'est pas extraordinaire, entre guillemets. Je pense que quelqu'un qui a la volonté de le faire. Donc, est-ce que c'est un système parfait? Non, bien sûr, il n'y en a pas. Mais comme ça vient d'être dit, est-ce qu'au moins ça cherche à faire bouger les lignes? Oui. Et puis, je pense, ça va inciter ou forcer, prenons le terme de manière assez claire, une partie de la population a effectivement retrouvé le chemin de l'emploi. Donc, ça va dans le bon sens.
Voilà. J'entends tout ce que vous dites. Vous rejoignez ma première réaction a été dire que cette mécanique me semblait compliquée et que
C'est un sujet compliqué. Après, il faut surtout ne pas stigmatiser, ça c'est le premier point. Les pauvres ne sont pas feignants, ça c'est démontré, redémontré, redémontré. Et que deux, il y a souvent des vraies barrières à l'emploi pour certaines populations plus vulnérables. Et donc, si on veut que ça marche, ce truc-là, il faut juste s'assurer qu'on travaille vraiment à l'accompagnement. Et ça peut être des très petites choses. Quand vous bougez, par exemple, moi je connais bien le patronat un peu des Hauts-de-France, ils ont beaucoup de besoins industriels, ils ont créé leur propre pôle emploi industriel qui s'appelle l'Alliance Emploi pour avoir des gens qui gardent sous CDI pour pouvoir les déployer dans la manufacture et dans l'auto. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit si vous n'avez pas de CDI, vous n'avez pas de logement. Et donc en fait, on préférait payer, au final ils sont toujours déployés, c'est une entreprise qui est assez profitable, une association qui est assez profitable, ils ont préféré faire ça plutôt que d'avoir cette espèce de précarité qui fait qu'en fait les gens ne viennent pas travailler dans l'entreprise parce qu'ils ne peuvent pas laisser, ils ne peuvent pas bouger leur famille pour un contrat de 6 mois ou même un contrat d'un an parce qu'il y a toute une série de prestations et d'accès qui vous sont interdits lorsque vous avez cette forme de précarité. Et ça, est-ce que France Travail est prêt à le faire parce que ça a un joli nom? Moi je ne le pense pas.
J'avance. Jean-Marc Vittori, vous commenciez à évoquer les derniers indicateurs qui se retournent. Il se trouve qu'Eurostat a constaté hier, alors c'est un constat technique à ce stade, que la zone euro était entrée en récession à la fin du mois de mars. Et ça fait écho avec une chronique que vous avez signée dans les Échos le 7 juin, les trois marches de la récession. On s'est réjoui trop vite d'imaginer que cette récession que tout le monde redoutait il y a un an n'arrivait pas et que donc on allait passer à côté.
Clairement, enfin, la première chose, c'est qu'on a une conjoncture depuis 3 ans qui est effroyablement compliquée. Je suis allé à 2 présentations par des économistes très distingués ces 48 dernières heures. Ils ont tous les deux commencé par le brouillard. Et je pense que c'est pas totalement par hasard. On on le voit sur toute une. Quand on fait des courbes, on a des choses qui sont assez régulières jusqu'en 2019, puis 2020, 2021, 2022, le pouvoir d'achat, l'emploi. Enfin, donc c'est très très difficile à lire, à interpréter et à voir au-delà du du dernier chiffre. Voilà, préambule nécessaire. Le deuxième point, c'est qu'on a eu un certain nombre de forces qui ont tenu la production ces derniers mois, ces derniers trimestres, et dans un certain nombre de domaines, pas partout, hein, dans l'industrie, il y a des pôles de résistance, visiblement, mais dans un certain nombre de domaines, on voit bien que ça faiblit. Et c'est normal. Je rappelle que l'an dernier, la France a dû payer, alors selon les estimations, hein, quelque chose entre 60 et 80 milliards de plus à l'étranger. Et ces 60 à 80 milliards, ils sont en moins dans le pays. C'est du pouvoir d'achat.
Ça s'appelle le déficit commercial.
C'est du pouvoir d'achat du pays qui disparaît. Et donc, il faut bien que ça se retrouve quelque part. C'est impossible que tout ça n'ait aucun impact sur la demande et donc sur l'activité. Il y a plusieurs leviers, hein, qui sont visibles depuis longtemps, enfin au moins depuis des mois, voire parfois des trimestres, dont on se demande s'ils vont pas finir par jouer de manière un peu violente parce que leur effet aura été retardé. Donc il y a la consommation, hein, la consommation a tenu jusqu'à présent, alors elle a baissé fortement dans les domaines où les prix ont le plus augmenté, hein, l'énergie et surtout l'alimentation, une baisse de 10% des produits d'achat des produits alimentaires, hein, c'est absolument colossal. On est revenu au niveau d'il y a 20 ans alors que la population a augmenté. Donc voilà. Mais si on regarde l'ensemble de la consommation, en gros, ça tient. Est-ce que ça va tenir éternellement? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une marche brutale? Quand on regarde dans l'histoire, il y a eu des marches brutales de baisse de la consommation. Donc, est-ce qu'on n'a pas ça devant nous? La deuxième marche qui pourrait être franchie, c'est celle des faillites. Hein.
Ça remonte.
Les faillites.
On est sous le niveau de 2019.
On est sous la tendance de long terme, alors qu'on sait qu'on a des dizaines de milliers d'entreprises qui ont survécu, qui dans une conjoncture normale n'auraient pas survécu. Ces entreprises, elles continuent d'être là, elles continuent de vivoter, elles continuent d'être là parce qu'elles ont eu beaucoup d'argent public, parce qu'elles ont eu des taux d'intérêt qui ont été extrêmement bas, parce qu'elles ont eu des prêts garantis par l'État que certaines ont maintenant du mal à rembourser. Donc les défaillances d'entreprises remontent, mais elles sont encore en dessous de leur...
Regarde, le troisième.
De leur niveau de non-tête.
Comme teasing. On le donne juste après. La troisième marche qui pourrait alimenter la récession par Jean-Marc Vittori, c'est à suivre dans un instant.
Est-ce la bonne décision? Quelque chose. Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Christian Poyot, il est PDG de Micropole et président de la commission Mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On va évoquer la troisième marche qui pourrait alimenter la récession. Je vous lis d'abord la réaction de Camille. Notre pays compte plus de 800 000 apprentis, ce sont 800 000 emplois aidés. Macron était censé ne pas en vouloir, ce sont aussi 800 000 chômeurs de moins, la magie des statistiques. C'est un élément qui, effectivement... Ouais, non, non, ah, si.
Non, mais ok, mais c'est, en Allemagne, il y a combien d'apprentis?
Ah, mais je dis pas qu'il faut pas des apprentis, mais ça a un effet, quand on parle des créations d'emplois, ça a un effet...
Oui, mais bien sûr que c'est un effet, mais c'est un effet positif sur ces personnes.
Mais l'entreprise pourrait le payer sans les aides, hein, l'apprenti. L'entreprise pourrait payer l'apprenti sans les aides.
Mais encore une fois, les pays avec sur quelle base on a un coût du travail qui reste supérieur à nos petits
copains. L'aide des apprentis en Allemagne est beaucoup moins élevée que l'aide des apprentis.
Oui, mais le coût du travail est beaucoup moins élevé en Allemagne qu'en France, notamment sur les cadres.
C'est la quadrature du cercle. Mais on peut comprendre qu'on a quand même dépensé énormément d'argent par emploi créé en France depuis quelques années.
Alignons la fiscalité des entreprises françaises sur celle de nos principaux concurrents européens.
Quand on se compare, on se console. Tu sais, c'est le problème. C'est là, dans ce cas-là, regardons juste. Est-ce que c'est normal que nos impôts futurs, puisque pour l'instant on ne les augmente pas, soient dépensés pour créer des emplois qui pourraient être payés sur des marges d'entreprise.
Jean-Marc Vittori parlait à l'instant du sujet des exportations.
Mais dans les services, il n'y a pas de problème de marchands. Dans la construction, il n'y a pas de problème de marchands. Les secteurs non exposés à la concurrence.
L'industrie, ok, redresse un peu la tête. On s'est pris des claques pendant des années,
l'économie française, c'est 75%
non industriel par rapport à nos concurrents.
Non, mais j'entends. Mais c'est juste qu'il faut assumer que c'est ça aussi la transformation qui a eu lieu. Il y a eu énormément d'aides pour recréer ces emplois. Et c'est pas mal. C'est juste qu'il faut assumer que par rapport à avant, on a mis beaucoup plus d'aide. Voilà. Après, tu dis on aligne, j'entends, mais je dis juste dans certains secteurs qui sont très profitables, très rentables, on n'a peut-être pas besoin de toutes ces aides. Moi, c'est juste parce que c'est nous qui allons payer, hein, de toute façon. Hein, donc,
La subvention pour l'apprenti est passée de 8 000 à 6 000.
Mais le prix des CFA, je dis, le ministre de l'Emploi te dit je ne veux plus payer
centre de formation
CFA, ça coûte trop cher, tu vois.
Oui.
Ça coûte
trop cher. Diminuons les aides et diminuons le coût fiscal.
Ben ouais. Mais c'est toujours la même idée. On se dit toujours, si on prenait toutes les niches, tous les crédits, toutes les ristournes, qu'on retire tout et puis qu'on retire tout aussi en termes de prélèvements obligatoires en face. Mais c'est
les deux au final, attends, faut être très clair là-dessus. Les deux au final feraient que le poids fiscal qui pèse sur les entreprises au sens large, y compris sur le côté social, serait moindre.
Oui, mais le problème, hein, c'est
Non, mais ça, c'est important parce qu'on entend souvent les aides aux entreprises, blablabla.
Oui, mais je sais.
Il y a là, allons-y. On fait le grand ménage. On supprime toutes les aides, mais on s'aligne sur la fiscalité de nos concurrents.
Mais le problème, c'est qu'on fait des
crises, il y aurait moins de poids.
Trop de perdants, si on fait. C'est tellement un maquis.
Mais c'est
Jean-Marc qui avait parlé de Mikado
réalité,
un jour sur la fiscalité.
C'est une réalité. Hein,
parce que vous avez des aides qui profitent à certains, et puis les prélèvements obligatoires, et si vous vous amusez à penser que la corrélation est immédiate entre chaque aide et chaque impôt, eh bien, il y en a qui seront des sacrés perdants s'il y avait suppression d'une bonne part. Imaginez le CIA, par exemple. La consommation va-t-elle tenir, notamment avec l'inflation?
On attend toujours le teaser.
Voilà.
Le crédit.
Les faillites vont-elles repartir avec la déferlante des remboursements de prêts garantis par l'État et la troisième marge de la récession, Jean-Marc Vittori?
C'est le crédit. Est-ce que le crédit va tenir lui aussi? On voit bien que les conditions de financement se tendent. Elles se tendent pour les entreprises, hein, qui ont souvent plus de mal à obtenir des prêts. Elles se tendent à l'évidence pour les ménages, notamment pour les prêts immobiliers.
Mais c'est fait déjà, ça. C'est engagé.
C'est engagé, voilà, exactement. La hausse des taux d'intérêt, même si on n'est pas à taux variable dans ce beau pays, dans la plupart des cas, la hausse des taux d'intérêt, elle a aussi un effet absolument redoutable. Et on voit bien sur le crédit actuellement ce qui se passe, hein, c'est qu'on a une baisse de l'offre et aussi une baisse de la demande. Et donc, si vous avez beaucoup moins de crédit, et là on reboucle avec ce que disait Ludovic tout à l'heure, s'il faut beaucoup de dettes pour faire un point de PIB et qu'on a beaucoup moins d'endettement, eh ben on peut aussi avoir un coup de frein tout à fait sérieux qui vient de là, surtout si on a des accidents financiers et dans une économie qui est très endettée avec des taux d'intérêt qui montent, les accidents financiers, ils sont pas très difficiles à envisager.
La production de crédit a marqué un coup, elle a arrêté de baisser au mois d'avril. Constater la Banque de France. Enfin, la baisse en mars était juste monumentale. Les trois marges de la récession, est-ce qu'elles vous semblent vraiment devant nous, en fait?
Oui, on s'attendait à une récession.
Vous chez Allianz.
En euro. Ouais, parce que franchement, je suis désolé c'est peut-être le vendredi qui fait ça, mais moi je suis obsédé par la dépense publique et c'est peut-être aussi parce que je passe trop de temps.
C'est le vendredi où vous êtes obsédé par la dépense publique.
Parce que encore une fois, la seule raison pour laquelle ça m'inquiète vraiment.
Donc il est pour les hausses de taux.
Non. On en a fait beaucoup là.
Non. Allez-y.
Non, ça m'inquiète vraiment parce que la récession, en fait. On a eu une petite récession là,
oui.
Mais cette récession là, elle est due entièrement à la consolidation budgétaire allemande. C'est-à-dire que l'Allemagne entre en récession le trimestre dernier parce qu'elle décide d'arrêter une partie des aides publiques. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, l'année dernière, s'il n'y avait pas eu d'aide pour répondre à la crise énergétique, les boucliers tarifaires, les machins, c'était selon les pays entre -1 et -3 de récession. Donc en fait, on a décidé d'éviter une récession à coup de dépenses publiques. C'est le rôle de la dépense publique, d'accord? Mais devant nous, on ne va pas maintenir ces niveaux-là de soutien à l'économie. C'est pas possible. C'est juste vraiment pas possible. Parce que le service de la dette, je tiens à le rappeler, en France a doublé entre 2021 et 2022. Donc ça devient...
Faut même pas doubler.
Ah si, 34 milliards, 59 milliards. Ça fait doubler pour moi.
J'étais à 51.
Et surtout, ça va pas s'arranger. Donc,
ça, c'est vrai.
Et dans les autres pays, c'est pire. Je reviens de Milan, c'est 3 points de PIB le service de la dette à fin 2024. Donc c'est pas rien du tout.
Ça fait combien un point de PIB italien?
Ça fait 15 milliards, 16 milliards.
Ouais,
et
d'accord.
Encore, eux, ils ont leur méga politique industrielle, là, le PNRR, qui est une politique de rattrapage un petit peu du sous-investissement qui a lieu dans le digital, le verdissement et tout ça. En fait, ils ont en déficit 2023 le même niveau de déficit que 2020, qui est une pandémie séculaire. Donc, vous voyez, il y a quand même un sujet. Donc, la récession, je pense que le vrai sujet, c'est on va consolider budgétairement. Est-ce que les rouages s'enclenchent sans que ça casse la dynamique de consommation? Et le vrai sujet sur la deuxième partie de l'année, c'est le salaire réel. Pardon, je finis juste là-dessus.
Juste sur la consolidation budgétaire, je crains que ce soit plutôt le problème de l'an prochain. C'est-à-dire que...
Mais tu vois, c'est le truc. Ouais.
On a les trois marches, consommation, faillite, crédit. Ça, c'est des marches qui sont là devant nous maintenant. La consolidation budgétaire, ça ne va pas être en 2023. On le verrait dans les projets de... Enfin, non, dans les budgets.
Ça veut dire que ta conso, elle tient sur endettement.
Oui, mais ça veut dire... Voilà. Mais le versant consolidation budgétaire, je crains qu'il soit pour 2024.
Et donc,
les salaires réels, là, c'est le dernier point que vous évoquiez.
Ah oui, parce qu'en fait...
Les salaires réels augmentent moins, enfin...
Enfin, les salaires réels aujourd'hui...
Baissent.
Oui. Et la question, c'est est-ce qu'ils reviennent en territoire positif à la fin de l'année parce que l'inflation baisse et que les salaires continuent d'augmenter. Les faillites, ça va augmenter. Hein.
Si on a
les salaires réels qui augmentent, le chiffre d'affaires qui décélère un peu, il y a des fins de carnet de commandes. Hein. On commence à voir dans l'auto. La fin de l'année dans l'auto, ça va être un peu compliqué parce qu'en fait, les carnets de commandes, ils sont sur la fin. Donc, c'est ça le vrai sujet. Pour en revenir à... Moi, je pense que les marges de Jean-Marc, c'est différent. Moi, je suis très inquiet du crédit. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, si récession vient, elle viendra parce qu'on a trop resserré les taux et que... Et dont acte, parce qu'il y a beaucoup d'inflation.
Larry Summers, il dit qu'il faut 50 points de base à la Fed en juillet.
Oui, ben, d'ailleurs, la plupart des gens maintenant attendent rien en juin, et 25 en juillet, 25 en septembre. Donc on n'a pas fait. Et en zone euro, nous, par exemple, on s'attend à 3 hausses de taux de plus, quoi. Donc une, et encore une en septembre.
Ah bon.
Donc ça fait 400 points de base.
La plupart des gens disaient, on s'arrête en juillet.
Non, mais ça n'arrête pas de bouger. Parce que l'inflation tient, le marché de l'emploi tient, l'inflation alimentaire, le machin, le bidule. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est, ben, en fait, on tient la consommation et le pouvoir d'achat. On a les entreprises qui font ce qu'elles peuvent avec les marges pour pas rentrer en système de faillite, etc. Mais du coup, les écarts, les excès s'accumulent un peu sur cette notion d'endettement très cher. Et donc, ce canal du crédit qui risque, à mon avis, hein, d'être beaucoup plus inquiétant sur la deuxième partie de l'année.
Ça prouve qu'une politique...
Mais non, mais de toute façon, c'est logique, Ludovic. Sur la liquidité, c'est pas fini.
Quand on va arriver à 18 mois, 24 mois après les premières hausses de taux, c'est là où on aura les effets. Ça veut dire qu'une politique monétaire de resserrement, ça fonctionne.
Ben bien sûr, mais ça veut dire que, attention, politique de resserrement qui fonctionne, ça veut dire moins de liquidité, donc le stock de liquidité est enlevé. Ça veut dire des banques qui prêtent un petit peu plus difficilement. Mais ça veut dire aussi, quand on est chef d'entreprise, le BFR. Les délais de paiement.
Ils font le roulement.
Aujourd'hui, ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, la liquidité, quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes obsédé par le cash. C'est ça, la liquidité, ça veut dire cash en vrai. Et donc, aujourd'hui, tout le monde s'inquiète de ces retards de paiement et tout le monde essaie quand même de gérer un peu, de ménager la chèvre et le chou. Et ça, c'est le vrai risque, à mon avis. C'est ce canal du financement crédit bancaire au crédit non bancaire.
Est-ce que ce super tableau du vendredi, hyper réjouissant?
Alors moi, j'essaie toujours d'introduire un brin d'optimisme.
Essayez, oui.
Non, mais voilà.
John me dit que l'apprentissage, c'est de l'investissement et pas de la dépense. Non,
sur la consommation, oui, les chiffres sont là, de toute façon, c'est évident. On voit quand même le prix de l'énergie a chuté de manière phénoménale. Okay. On peut estimer que les prix alimentaires vont quand même peut-être baisser progressivement, etc. Bon. Et puis, il y a beaucoup d'épargne aussi en tant que telle. Donc, bon, la consommation, c'est un point de vigilance, mais qui est peut-être pas le plus important. Les faillites, alors, il y en a moins qu'en 2019. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument se battre pour revenir comme en 2019. Enfin, c'est vrai que les faillites, il n'y en a pas eu en 2020-21 pour les raisons qu'on connaît.
On est tout mis sous cloche.
Donc, il y a à nouveau des faillites maintenant. Enfin, ça fait partie de la vie économique normale. Et je dis ça avec beaucoup de solennité et de respect, bien évidemment. Mais je veux dire, bon, les faillites d'entreprise, alors après, ça dépend de la taille des boîtes, etc. Donc, c'est pas l'indicateur. Le crédit, oui, par contre, ça, je rejoins évidemment. Et Jean-Marc et Ludovic, c'est un sujet sur lequel les entreprises sont vigilantes parce que le crédit, c'est quand même ce qui permet de financer le développement, l'investissement, etc. Donc là oui, c'est un vrai sujet. Quoi.
Voilà. En fait,
donc je prendrais juste une marge sur les trois. Voilà.
Ludovic, l'idée, c'est de dire que oui, effectivement, les banques centrales sont arrivées au bon niveau de taux qu'il faut arrêter. Quoi.
Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Le seul truc, c'est plutôt qu'elles se sont mises dans cette... Elles se sont mises dans un mode de tâtonnement monétaire où en fait elles vont attendre de voir dans les faits une décélération de croissance ou une décélération de la dynamique du marché du chômage avant d'arrêter. Ça veut dire que c'est déjà trop tard. Parce qu'en fait, il y a un effet d'inertie, oui, le moment où vous le voyez, ça dure pendant plusieurs trimestres. Et là, le problème, c'est qu'on est un peu à l'os sur la politique budgétaire. Donc en fait, si les banques centrales s'arrêtent quand c'est au moment de la récession, ça veut dire qu'il y a récession quelques trimestres, et les politiques budgétaires, elles sont déjà très utilisées. Donc moi, je suis un peu inquiet de ce type de scénario-là. C'est pas, pour l'instant, ça tient, et en effet, beaucoup de sources de résilience. Il faut juste regarder attentivement, il faut être obsédé en ce moment par le cash et par la liquidité. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Angleterre. Ce qui s'est passé en Suisse, c'est pas anodin. Il y a des sujets de stabilité financière. On se targue et on a raison en zone euro d'avoir des banques beaucoup mieux, beaucoup plus profitables, beaucoup plus capitalisées. C'est très vrai parce qu'on a eu une crise bancaire il y a 10 ans. Mais en revanche, attention à ces sujets de liquidité parce que le vortex financier américain, c'est historiquement celui qui crée une récession sur deux. Et qu'il n'y a pas un cycle de durcissement des taux qui ne se termine pas soit par une récession, soit par une crise financière. Donc moi, je dis juste, OK, peut-être que cette fois-ci, c'est différent. Moi, en tant qu'économiste, j'ai toujours du mal quand on dit « this time is different ». Je me dis, bon, peut-être que c'est différent, mais peut-être aussi qu'il y a des choses à regarder sur lesquelles il faut faire très attention. Et en ce moment, c'est la liquidité, c'est sûr.
On n'a jamais vu, enfin, c'est Jean-Pierre Petit qui nous a dit tout de suite, on n'a jamais vu une très forte période d'inflation ne pas conduire à une récession.
Bah, moi, je suis inquiet d'une récession aux États-Unis. Parce que les États-Unis, pour le coup, c'est le durcissement monétaire est tel. L'utilisation de la dette dans les... si nous, on crée 2 points de dette ou 2,5 points de dette pour créer 1 point de PIB, aux États-Unis, c'est 3 points de dette pour créer 1 point de PIB.
En même temps, ils attirent beaucoup de... Enfin, c'est le truc de l'IRA, d'industrie. Enfin, ils ont parié sur des choses.
Mais
aussi,
c'est de l'endettement. Si tu as les Républicains l'année prochaine, ils vont arrêter l'IRA. Parce que ça coûte trop cher, 400 milliards pour faire de la politique de l'offre.
Bon, on prend des paris. Pas Trump, en tout cas.
Liberté, liquidité, j'écris ton nom. C'était le titre d'une chronique de Ludovic Subran dans Les Échos du 28 avril. Alors, la bonne nouvelle, Jean-Marc, c'est peut-être que le pic d'inflation est atteint, c'est ce que dit le gouverneur de la Banque de France. J'ai tendance à penser qu'il a raison. Je pense qu'il faut se méfier de la confusion entre « Ah, ben ça y est, l'inflation ralentit, les prix vont baisser », ça n'est pas la même chose, l'inflation et les prix. Tant qu'il y a de l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent, mais s'il y a moins d'inflation, ils augmentent, mais moins vite. Parce que là, la promesse politique d'avoir des baisses de prix visibles dans l'alimentaire en septembre, je pense qu'elle est très audacieuse. Parce que si on veut pouvoir dire que la promesse a été tenue, il ne faut pas avoir 3 produits qui baissent dans les rayons. Il faut avoir une vraie baisse bien visible. C'est comme l'histoire de la courbe de Hollande. En fait, juste avant son départ, la version de la courbe avait commencé, mais tellement faible que ce n'était pas politiquement recevable. Vous y croyez au pic d'inflation ?
Vous savez depuis combien de temps on parle de pic d'inflation ? Non, mais sérieusement.
Au début, on a parlé d'inflation courte durée.
On parle de pic d'inflation depuis plus de 2 ans.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est un peu dur, Jean-Marc.
Non, regardez dans la documentation des Échos, j'ai fait l'exercice, pic d'inflation, c'est depuis plus de 2 ans. Donc, voilà, c'est premier point. Deuxième point, ça a déjà été dit, on a un certain nombre de prix qui ont fortement poussé l'inflation, notamment sur l'énergie, et dans une moindre mesure sur l'alimentaire, qui sont en train de se calmer et de revenir au niveau antérieur. Ou un peu au-dessus du niveau intérieur. Donc ça va clairement dans le sens de l'accalmie. Donc moi, j'ai tendance à penser qu'on est sur un plateau qui peut durer encore quelques mois, alors avec des petits mouvements de hausse, des petits mouvements de baisse. Hein. On voit bien que c'est un peu ce qui s'est produit ces derniers mois. Moi, je pense qu'on est sur un plateau, qu'on va descendre du plateau, mais qu'on va descendre du plateau très lentement. On va descendre du plateau très lentement parce que on a des hausses de prix qui ont entraîné des hausses de salaire, et qui vont entraîner des hausses de prix. Alors, on n'est pas dans un phénomène explosif, hein, comme on était dans les années 1970. Et donc, ça n'est pas catastrophique. Mais ça veut dire que espérer une rechute de l'inflation, voire une rechute des prix dans les mois ou les trimestres à venir, ça me paraît tout à fait extraordinaire.
Je suis de votre avis sur le fait que les prix pourraient... Il y a des prix qui auront atteint, qui auront franchi une marche, justement, et en dessous de laquelle ils ne redescendront.
Les salaires ne vont pas...
Ils ne vont pas
baisser.
La pression sur les salaires, elle n'est pas terminée.
Voilà, le pétrole, le gaz, le blé, les engrais, tout ça, les prix reviennent au niveau antérieur. Les salaires, les prix ne vont pas revenir au niveau antérieur. Et c'est une composante très importante des coûts des entreprises, davantage que les matières premières.
Si je reprends le rapport Cyclope de Philippe Chalmin, il dit on n'a peut-être pas tout vu sur l'énergie, parce que là on se réjouit de voir le prix du gaz qui est retombé à son niveau d'avant-guerre en Ukraine, le baril de pétrole qui a quasiment tutoyé les $70 pour le Brent, mais l'hiver 2023-2024...
Mais même en supposant que les prix des matières premières ne bougent plus beaucoup aujourd'hui, on a des salaires qui représentent, encore une fois, des coûts beaucoup plus importants des entreprises que les matières premières.
Alors, pic d'inflation,
dans l'industrie, quoi,
question Boyau.
Et moins dans l'industrie, mais tout de même.
Et juste sur la partie énergie, je ne suis pas un énergéticien, donc je ne vais pas faire de grands cours là-dessus, parce que c'est très très complexe, le marché de l'énergie. Mais enfin, je trouve que ça a bougé de manière, on va dire, positive, dans un laps de temps extrêmement réduit.
C'est très volatile, l'énergie.
La guerre en Ukraine, ça fait quoi? Ça fait même pas un an, quoi.
Un an. Février 2022.
Un an, d'accord. Le bouleversement que ça représentait est colossal, d'accord. Bon, donc il y a eu un choc colossal, mais en même temps, est-ce que les circuits de distribution, les nouvelles pistes, alors poussées en partie par la contrainte environnementale a bougé. Donc il y a eu quand même un redéploiement des sources d'énergie, qui a été phénoménal dans un laps de temps très court. Hein, encore une fois, un an et demi, c'est rien, quoi, si j'ose dire. Donc moi, je suis assez optimiste sur ce et le côté de la sobriété, qui est quand même très positif, encore une fois, pour le côté environnemental, là aussi, a joué beaucoup, autant sur les ménages que sur les entreprises. Tout le monde a fait beaucoup plus attention à ça. Donc oui, c'est un sujet extrêmement important. Je pense qu'on ne le mesurait pas suivant sa vraie valeur avant, mais ça a quand même bougé positivement très rapidement.
Les prix dits volatiles, justement, ce sont ceux souvent qu'on sort du chiffre d'inflation pour avoir l'inflation corps, et c'est toujours les mêmes. C'est l'alimentaire, bien sûr, et justement l'énergie. Le pic d'inflation en France atteint, selon François Villeroy de Gallo, Ludovic Subran.
Oui, mais c'est pas ça que c'est. On s'en fout.
On s'en fout. Il y a un moment si. Mais il y a un moment si t'as atteint le pic, tu peux même avoir une décélération.
Le seul qui doit
ça peut être saisissant.
Non, mais si on veut qu'un jour les hausses de taux s'arrêtent au niveau de la BCE, pas mal.
Donc,
que
bon, l'émission est terminée. Le pic d'inflation, c'est important pour la BCE. Mais pour le quidam, je suis désolé. Ce qui compte, c'est que l'inflation, elle continue d'être positive et très positive.
Oui, ça, je suis d'accord.
Et que du coup, le pouvoir d'achat, lui, va être continué en croissance d'être très négatif. Donc c'est ça qui est le
Parce que si elle est sur un plateau, les prix
que ce soit toujours le pic ou une péninsule, moi je m'en. Tu vois, c'est pas très grave. Ce qui m'inquiète surtout, c'est ce que dit Jean-Marc, c'est que la descente va être très longue et que dans l'entretemps, enfin dans ce temps de descente, vers les 2% qui. 2025, tu vois. On a quand même pas mal d'inflation et ça veut dire qu'il faut beaucoup de croissance, beaucoup de gains de productivité, tout ça, des salaires réels qui réaugmentent et tout, parce que sinon, on a quand même un vrai sujet de faible croissance et d'une inflation qui est collante et qui, à mon avis, pose un risque social très fort. Sur l'alimentaire, encore une fois, il y a quand même 46% des plus vulnérables en France qui ont sauté un repas. C'était des enquêtes qui ont eu lieu au mois de mai, etc.
C'est pire en Grande-Bretagne.
On parle de choses quand même que moi, je ne pensais pas voir dans mon pays avec 16% d'augmentation des prix alimentaires, etc. Donc, je pense qu'il y a des... On ne verra pas de baisse des prix alimentaires comme celle que tu entends, Nicolas, mais je pense qu'il y a des produits sur lesquels on peut faire beaucoup plus d'efforts que ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que le ministre s'en est mêlé. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il y a 10 à 20% de l'inflation dans des secteurs comme l'alimentaire ou comme l'énergie ou comme les transports qui ne sont pas expliqués par l'offre et la demande. Donc, il faut juste faire attention à ça. On a parlé beaucoup d'inflation. Ça crée des prophéties autoralisatrices autour de l'augmentation des prix. C'est normal. Quand vous êtes entrepreneur, vous voulez vous assurer que vous montez vos prix pour pouvoir faire face à des prix élevés futurs. Dans l'alimentaire, c'est juste que ça touche vraiment tout le monde et les plus vulnérables. Hein, c'est la fameuse courbe de Lorraine. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, plus votre budget consacré à l'alimentation est élevé. Et que donc, aujourd'hui, il y a des gens pour qui c'est difficile de faire des fins de mois. Enfin, le caddie... de la famille moyenne, il a quand même pris plus de 20% selon les indicateurs.
On a énormément parlé.
Les salaires, ils n'ont pas pris 20%.
Oui, c'est clair.
Mais c'est Jean-Marc Vittori. Le SMIC a été relevé en fonction non pas de l'indice des prix, mais de l'indice des prix du dernier quintile, c'est-à-dire des Français qui ont les plus bas revenus. Hein, donc, il y a même dans l'ensemble du système français, il y a même des mécanismes de protection face à cette amputation.
Mais tu sais, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé sur les transports maritimes, etc. Enfin, on se rappelle ce qui s'est passé dans le Chili.
On était monté à 10 500 $ le 40
pieds. Il y a des secteurs, là, on parle de l'énergie, ce qui s'est passé dans l'énergie. Il va falloir faire un post-mortem de ça. C'est pas possible.
Oui,
il y a quand même eu. C'est pas possible que ce soit plus 400%,
ça se normalise. Il y avait une partie de spéculation très forte.
Regarde les bonus des traders Transfigura qui est sorti. Il y a des sujets sur lesquels il faut se poser des questions. Parce que comme dit Christian, le plus important maintenant quand on est industriel, et notamment pour rester en Europe, pour rester en France, c'est la prévisibilité des prix de l'énergie. Donc quels sont les mécanismes qu'on met en place pour ne pas avoir un déficit de compétitivité énergétique structurelle.
J'attends de voir en Europe comment les mécanismes européens vont évoluer. C'est hyper compliqué, la fixation du marché des prix de l'énergie en Europe. J'attends de voir comment ça va évoluer. En tout cas, c'est le principal atout de la France dans le dernier baromètre EY d'attractivité. Pourquoi la France ? Pour les prix de l'énergie. Et pour le fait qu'elle est décarbonée.
Mais les gens, je pense qu'ils avaient fumé la moquette quand ils ont répondu ça. Les prix de l'énergie en France.
Parce qu'elle est décarbonée, notamment.
Oui, mais elle n'est pas toute décarbonée. Et de deux, l'énergie décarbonée, c'est-à-dire l'énergie nucléaire, principalement en France l'année dernière, on a importé de l'énergie, de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire.
Mais l'année 2022,
tu vois. C'est-à-dire que les gens qui disent on a
un avantage. En vision moyen terme.
Mais l'année 2022 a juste été catastrophique.
Il faut voir les projets dans le baromètre EY, il faut voir les projets qui viennent se localiser en France. Ce n'est pas des projets industriels, malheureusement. C'est les industriels français qui font l'industrie en France.
Il y a beaucoup, surtout, qui sont des extensions de projets existants. Pour terminer, c'est dans à peu près un mois l'élection à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux. J'ai l'impression, Christian Poyot, qu'elle ne passionne pas beaucoup, cette élection. Je me souviens, la succession de Gattaz. Non, mais la succession de Gattaz...
C'est pas sympa, il est au MEDEF.
Il connaît... D'abord, on se connaît depuis des années. Il connaît la boutique de l'intérieur. À l'époque de la succession de Gattaz, il y en avait un peu partout de la course à la présidence du MEDEF. Là, vous allez sur un média non économique, vous dites Philippe Martin,
Dominique
Carlac, qui?
Ouais, alors,
j'exagère un peu, mais j'ai l'impression que
vous exagérez un petit peu, Nicolas. Bon, dans le monde patronal, oui, elle passionne quand même, et c'est un sujet de discussion très fort, de rencontres, d'échanges, de dîners. Enfin, effectivement, je suis présent, je soutiens pour ma part Patrick Martin, je le dis très clairement.
Comme à peu près 90% de l'ensemble des fédérations et des MEDEF.
Oui, ok. Après, on va voir c'est le 6 juillet, qui aura le résultat en tant que tel.
C'est ça.
Donc, après, les votants, c'est 1500 votants. Donc, 1500 votants, on se doute bien que c'est pas 10 millions de personnes, etc., etc. Après, c'est vrai que dernière élection, il y avait Alexandre Sobo et Geoffroy Roux de Bézieux, des personnalités très marquantes en tant que telles, non pas qu'elles ne le soient pas aujourd'hui, mais il y avait peut-être un suspense, disons les choses, peut-être un petit peu plus fort sur ce sujet, mais ça reste un sujet quand même important. Voilà, on voit ce qu'a fait le MEDEF ces dernières années. Donc,
mais justement, terminons par là. Qu'est-ce que vous retenez des années Roux de Bézieux? Je me suis objectivement posé la question et je me suis dit, qu'est-ce que le MEDEF a été silencieux?
Non, mais
peut-être, Christian, pour de bonnes raisons.
Mais alors, attendez, ça, c'est vraiment.
C'est quand vous
sujet...
êtes à la tête du MEDEF en pleine politique de l'offre du gouvernement, il n'y a aucune raison que vous
agitiez les bras. Moi, je ne m'occupe que de la commission transformation numérique, etc. Mais enfin, bon, je connais Geoffroy depuis une trentaine d'années. Bon, voilà.
Il a un parcours d'entrepreneur extraordinaire.
Je peux vous dire, on n'imagine pas le temps et l'énergie qu'il a passé et l'ensemble des équipes sur le sujet. Enfin, les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine / crise énergétique, mais c'est des kilomètres de réunions, d'heures d'échanges sur les sujets techniques pour comment répondre, etc. Enfin, le MEDEF a travaillé, mais de manière extraordinaire pendant toutes ces années. Alors évidemment, le MEDEF, c'est pas point de vue image du monde gala où on passe son temps à faire du buzz sur n'importe quoi, à parler de choses bidons. Non mais je dis tel que je le pense, quoi. Si je dis où on fait de la chantilly en permanence pour dire n'importe quoi. On est des gens pragmatiques, voilà, sérieux, qui travaillent sur les sujets qui sont souvent compliqués, effectivement, qui ne sont pas toujours très compréhensibles non plus par le grand public, mais il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Il y a eu un sondage récemment qui montrait l'image du MEDEF.
Ça.
Bon, bah voilà. Alors,
l'image des entreprises, c'est considérablement améliorée.
Les pins MEDEF, mais enfin, l'image de l'entreprise, parce que ce que cherche le MEDEF, c'est l'image des entreprises. Elle s'est quand même améliorée de manière significative. Voilà.
Et les grandes.
Et Geoffroy Roux de Bézieux y a contribué de manière très significative, parce qu'il a une manière d'échanger et de communiquer qui a été forte. Et puis, il y a eu des accords avec les syndicats, qui ont été aussi assez, le dernier là sur le partage de la valeur est quand même quelque chose de significatif. Et puis sur le fait de pas faire de bruit, ce qu'on nous critique sur le sujet des retraites, le BNF n'a pas pris part a soutenu la réforme tout à fait clairement, mais il n'est pas à prendre part de manière plus significative par rapport à ça. Donc non, franchement, mais encore une fois, oui, on devrait se mettre des paillettes ou jeter des confettis pour faire un peu plus de buzz.
Vous provoquez un peu parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de petites musiques publiques sous Pierre Gattaz avec son pins le livre jaune, je me souviens là, ces genres
de trucs. Oui, mais là c'est le débat entre le MEDEF de combat et autre chose, c'est un MEDEF de résultat comme le dit Geoffroy.
Une minute là, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le MEDEF? Non, Luc de Vieux-Cipron a pas grand-chose à dire. Il y en a presque
c'est
pas.
Rare, les... C'est rare, c'est ça que
je veux dire. Oui,
mais non, mais Christian, il connaît ça de l'intérieur. Je pense qu'il a raison.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que fait le MEDEF qu'on ne voit pas. Je pense qu'il y a eu certainement un vent arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent qui a porté un peu le MEDEF parce que ce gouvernement, enfin, ce président, a voulu remettre l'emploi au centre, l'entreprise au centre. Il l'a dit. On veut produire plus pour mieux redistribuer. Depuis le début, il l'a dit. Je veux arrêter ce côté bismarckien de la protection sociale. C'est-à-dire que si vous décodez Macron 2017, c'est sûr que l'idée pour lui, c'était de remettre l'entreprise au centre. Et le MEDEF a certainement...
Petit mot, alors, Jean-Marc, pour terminer, on a 20 secondes.
Juste un mot sur la réforme des retraites. J'ai été même frappé par la transparence du MEDEF. Et sur le fait qu'il y a un point sur lequel, pour moi, le MEDEF et l'ensemble des chefs d'entreprise devraient se mobiliser, c'est l'emploi des seniors. Faire que ça se passe. Et là, c'est un vrai enjeu patronal. Et ça, je trouve que pour l'instant, ben, ça passe à côté.
Mais en filigrane, on a souligné un défaut journalistique qui consiste à se dire que celui qui n'est pas dans les médias du matin au soir, il ne fout rien. Et quelquefois, on a tendance à penser ça des ministres. Oh, mais personne ne la connaît, personne ne le connaît, donc il est nul.
Un droit de réponse de 30 secondes. Mais je suis aussi au Conseil exécutif, donc je peux réconforter Jean-Marc Vittori. Nous en parlons au Conseil exécutif. Bon. C'est un sujet, par contre.
Christian Poyot.
C'est forte. Voilà.
Ludovic Subran. Jean-Marc Vittori, je garde Ludovic pour fixer une date avant l'été avec lui pour qu'il revienne. On se retrouve lundi à 9h.